Bonjour Jean-Gilbert, bonjour aux amis. Vous êtes les tout premiers aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Bonjour Marie-Marthe. Hier, il y avait Georgette et puis Diderot à l'église. Bonjour Pascal, je pensais à vous ce matin. Que Dieu vous bénisse, je prie pour vous. Bonjour Manon, bonjour Pasteur André. Bonjour Lucie, j'espère que vous avez passé un bon week-end, soyez bénis. Alors j'ai changé quelques petites configurations dans le logiciel de diffusion, donc j'espère que le tout est profitable. Pour l'instant, j'ai pas d'annonce comme quoi il y avait des troubles avec l'internet, donc c'est déjà une bonne chose. Bonjour à Jocelyne Gosselin, que Dieu vous bénisse. Bonjour à ma belle-mère. Mais je cache tout ça, donc ne t'étonne pas si le message est passé en filigrane. Qui d'autre est connecté? Pour l'instant, je vois personne d'autre que je n'ai pas salué. Donc aujourd'hui, on entreprend une nouvelle semaine. Juste vous laisser savoir bonjour Natacha, bonjour Indirène. J'étais content, Natacha, hier d'apercevoir même de loin Chandia. Donc s'il est à côté de toi, si elle est encore là à Montréal, tu la salues de ma part, bien entendu. Et bonjour à la petite famille. Bonjour à mon père et à ma mère. Bonjour Denise, bonjour Gérard, soyez bénis. Je ne réponds pas. Je ne réponds pas, Pascal. Bonjour la sœur Susanna. Bonjour à Marie-Huguette. Comme on est en début de semaine et que j'aime tellement les prénoms de vos filles, donc bonjour à Leïka et à Gaëlle. Bonjour la belle-mère. Rebonjour. Merci Marie-Huguette. Il y a des messages que je masque. Mais il paraît que ça passe quand même. Ça ne passe pas sous les radars. Je les masque quand même. Mais merci Lucie. Bonjour Thérèse. Je vais le répéter tout à l'heure, mais simplement vous laisser savoir que demain je ne serai pas en onde. Demain matin, à 7h, je dois déjà être à l'hôpital pour un examen, donc je ne serai pas de retour à la maison avant probablement 9h30, 10h. Donc voilà, je ne serai pas là donc demain. Pascal, je viens de voir votre message rentrer. Soyez bénis. Pour l'examen de demain, ça s'appelle un CT scan. Donc, je suis un des premiers, je crois, à passer le même matin. Mais c'est en ville, donc c'est pas à côté de la maison non plus. Donc, voilà. Donc, je serai absent demain matin. Bonjour Rachel, content de te savoir parmi nous ce matin. Rachel qui travaillait avec les élections hier. Oh, je vois très bien, Pascal, que vous n'êtes pas la seule. Voilà pourquoi j'essaie d'aller vite sur le piton, comme on dit au Québec. Bonjour Marie-André. Bonjour Denise, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez eu un bon temps hier à Deux Montagnes. Bonjour à la sœur Nancy. Rachel, alors on salue les sœurs qui sont avec toi ce matin. Auxilia, Chantal, Mona, je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais on les salue bien chaleureusement. Bonjour à ma tante qui nous regarde de la belle région de Bordeaux, en France, bien entendu, pour ceux qui se demandent. Merci à Marie-André. Et puis, grosse accolade à Farley. Je l'ai aperçu en passant hier, je lui ai fait un coucou de la main, mais voilà, j'étais très content de voir Farley. Donc, si elle est à côté de sa maman, on la salue aussi très chaleureusement. Merci Marie-Huguette. Mais le message est déjà disparu, bizarre, hein? Encore 3 ou 4 minutes avant qu'on ne débute officiellement avec l'enseignement du jour. Alors pour ceux qui ont leur Bible, vous pouvez déjà ouvrir dans Hébreux au chapitre 4. Hébreux chapitre 4, et cette semaine, on étudie le verset 12. C'est un verset qu'on a déjà étudié, mais qu'on a étudié sur une seule journée, il y a environ 2 mois par là, lorsqu'on faisait tous les symboles inhérent à la parole de Dieu. Donc on reprend ce verset pour toute la semaine, par contre, cette fois-ci. Bonjour Julie, bien heureux de vous savoir avec nous ce matin. Merci la belle-mère, mais vous voyez aussi que le commentaire a disparu. Et là, vous allez mélanger tout le monde. Mais il n'y a pas de trouble. Voilà quelqu'un que j'attendais. Alors, bonjour à la sœur Florie et au frère Louis. Et comme ce matin, vous semblez enclin à souhaiter des joyeux anniversaires, donc aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la sœur Florie. Donc, vous pouvez lui souhaiter un très joyeux anniversaire. Que Dios me la bendiga, hermana. En este día de cumpleaños para usted, que Dios me la guarde y que le da bendiciones. Bonjour à Babette et à Andreas. Merci Tati. Effectivement, Daphné a une belle voix. Je dis à la blague à l'occasion que c'est ma Lara Fabian. Bonjour Farley. Bonjour Raymond. Alors, même pendant qu'on prie ou qu'on étudie la parole ce matin, ne vous gênez pas pour envoyer vos souhaits de joyeux anniversaire à la sœur Florie, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Et puis aussi, c'était l'anniversaire de la sœur Denise, l'épouse du frère Gérard. Donc vous pouvez la saluer aussi. C'était son anniversaire, je crois. Quel jour? C'était vendredi ou samedi. Donc vous pouvez la saluer. Et j'essaie de retrouver. Voilà. Elle apparaît sous le prénom de Denise Liliane Saint-Louis. Donc Denise Liliane Saint-Louis, c'était son anniversaire, soit vendredi ou samedi. Donc, mais je pense que c'est samedi. Donc vous la saluez aussi, vous lui souhaitez un joyeux anniversaire. Bonjour Suze, que Dieu te bénisse. Et bonjour à la petite famille. Bonjour Guy, sois béni. Alors on va prier. Et puis pendant qu'on fait l'étude, donc vous souhaitez les joyeux anniversaires à la sœur Florie. Et puis à la sœur Denise Liliane. Alors Seigneur, merci pour cette occasion que tu nous donnes encore une fois de débuter la semaine dans ta présence et dans l'étude de ta parole. Je crois qu'il n'y a pas de meilleur remède à la torpeur qui sévit. Il n'y a pas de meilleure nourriture pour notre âme, pour notre esprit. Tu es cette source de vie dont on a besoin. Et encore cette semaine, on va parler de l'importance de ta parole. On te demande, Seigneur, d'ouvrir notre entendement, d'ouvrir notre compréhension à ta volonté, à tes plans, à tes desseins concernant ta parole. Que celle-ci, celle qu'on va partager cette semaine, puisse trouver une terre qui lui est propice afin, Seigneur, qu'elle s'enracine, qu'elle croisse, et qu'elle porte un fruit qui t'est agréable de ce côté-ci de l'éternité, mais aussi, Seigneur, pour le restant de l'éternité. Alors, bénis ma sœur, bénis mon frère, instruis-nous, parle-nous, dis-nous ce que tu as préparé de toute éternité pour cette journée et cette semaine, et en toute chose, que toute la gloire, l'honneur, la puissance, la magnificence te reviennent à toi et strictement qu'à toi. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors que Dieu vous bénisse encore une fois et puis bienvenue à cette étude ou à cette bénédiction matinale première de la semaine. Cette semaine, donc, on développe la thématique qui a été abordée hier lors de la prédication par le pasteur Sergio. C'est un verset, comme j'expliquais tout à l'heure, qu'on a étudié il y a déjà quelques semaines lorsqu'on parlait des symboles propres à la parole de Dieu qui sont mentionnés dans la Bible. Et on a parlé de la parole comme une épée. Donc on revient dans un verset important, Hébreux au chapitre 4, le verset 12. Contrairement à la dernière fois où c'était un enseignement sur une seule séance, donc on va prendre toute cette semaine pour étudier de façon plus approfondie donc ce texte pour cette semaine. Donc, Hébreux, chapitre 4, le verset 12. Et je rappelle encore, j'en ferai mention à la toute fin de notre rencontre. Demain, je ne serai pas en ligne parce que j'ai un examen, un test à passer, ce qu'on appelle un CT scan. Je ne me rappelle plus du terme en français, donc j'y vais avec le sobriquet comme ça, ou avec ces scintographies ou quelque chose comme ça. Donc, c'est un terme compliqué. Donc, CT scan demain à 7h. Donc, je ne serai pas en onde. Donc, on va étaler les enseignements jusqu'à vendredi. Alors, je lis pour vous Hébreux 4, le verset 12. Je continue. Juste un instant. Donc, Hébreux 4, 12 nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Alors, je répète, « Car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Et aujourd'hui, on va se limiter à cette première phrase, ce premier groupe nominal, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace. » Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Quatre mots importants aujourd'hui. Le mot « parole », le mot « Dieu », le mot « vivante » et le mot « efficace ». Et bien entendu, on va donner le terme en grec. Vous vous rappelez qu'on étudie un texte qui est dans le Nouveau Testament. Donc, le Nouveau Testament a été rédigé en grec. Les archives les plus lointaines qu'on a sont en grec. Il y a une seule partie du Nouveau Testament qui a été écrite en araméen, et c'est le livre aux Hébreux à la base. Mais ce que nous avons aujourd'hui, c'est donc des archives qui sont en grec. Donc, parole, Dieu, vivante, efficace. Parole, Dieu, vivante et efficace. Alors, on parle de la parole de Dieu. La parole, c'est le terme logos. L-O-G-O-S, c'est un terme qui est assez usuel dans la communauté chrétienne. Lorsqu'on parle de la parole de Dieu, en général, il y a deux termes. Donc, il y a le rhéma et le logos. Et ces deux facettes de la parole qui représentent en fait deux manifestations de cette parole. Le rhéma, c'est ce qu'on appelle la parole spontanée de Dieu. Alors, c'est quand le Seigneur nous parle sur une situation ponctuelle, sur un événement ou sur une situation qu'on peut traverser, et il va nous parler de différentes manières, notamment ça peut arriver par des rêves, par des songes, par des visions, par le conseil de quelqu'un, par une impulsion profonde au niveau de notre cœur et au niveau de nos pensées. Mais ça peut être aussi à travers des versets tirés donc du Logos, des versets qui de façon ponctuelle vont représenter ou vont prendre un aspect, vont prendre une efficacité toute particulière pour un domaine ponctuel, bien précis. Je vous donnerai comme exemple, et parce que j'en ai déjà témoigné ce matin-là, où je devais décider à l'époque où un médecin voulait amputer mon pied, et je disais, je priais, j'avais pas eu de réponse, et ce matin-là, en ouvrant ma Bible, une nouvelle Bible que je n'avais jamais ouverte, j'ouvre ma Bible et je tombe dans un verset dans Ésaïe, où le prophète va dire « Oh, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles à Sion, qui disent « Ton Dieu règne encore ». Et c'est pour moi, c'était Dieu qui me parlait. À ce moment-là, oui, c'est tiré de la Bible, donc tiré du Logos, mais ça a une fonction rhéma. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la parole de Dieu qui est vivante et efficace, on parle du Logos. Le Logos, c'est quoi? C'est la parole permanente et révélé de Dieu. parole permanente et révélée de Dieu. Contrairement au Réma, qui est une parole ponctuelle, arrêtée dans le temps, pour une situation toute particulière que quelqu'un, un frère, une sœur dans la foi peut traverser. La parole immuable de Dieu, le Logos, est plutôt une parole qui s'adresse à l'ensemble de l'humanité ou à l'ensemble de la communauté chrétienne qui a été donnée par Dieu et qui est valide et qui se partage génération après génération dans ce qu'on appelle la Bible. Donc le Logos, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Et on nous dit qu'elle est permanente. Ça veut donc dire qu'elle est immuable dans le temps, établie et immuable. Ce qui est génial avec cette pensée, c'est que ça nous parle donc de la fidélité de Dieu et de la justice aussi de Dieu. Et ce terme-là va être intéressant tout au long de cette semaine parce qu'on va faire le lien aussi avec l'aspect du juste juge qui est Dieu, sur lequel on va revenir dans 20-30 secondes. Donc, établi et immuable. Ça veut donc dire que les prescriptions de Dieu n'ont pas changé d'éternité en éternité. La pensée de Dieu sur ce qu'est le péché n'a pas évolué, n'a pas changé. Ça veut dire que tout être humain, quelle que soit l'époque à laquelle il est né, tout homme, toute femme, peu importe l'époque qu'il a vu vivre, était basé ou était sous le regard de Dieu dans un même statut. Dieu n'a pas dit, bon, mais pour le 18e siècle, voici ce qui est péché. Et rendu au 21e siècle, on va éliminer des choses qu'on déclarait péché à l'époque. Mais aujourd'hui, je prescris qu'à partir du 21e siècle, ce n'est plus péché. Ce qui était péché au premier jour de la création sera encore péché pour le restant de l'éternité. Ce que Dieu proscrit avant même que l'homme ne soit créé, il le proscrit pour l'éternité entière. Ça veut donc dire que les jugements de Dieu sont justes. S'il y avait inéquation entre ce que Dieu décrivait autrefois péché et ce qu'il décrirait aujourd'hui péché, si ce n'était pas la même chose, alors il y a des générations qui pourraient se lever en disant « ben là, c'est injuste. C'est injuste par rapport à notre génération que tu reçoives telle ou telle chose comme étant une abomination. » Alors que pour une autre génération, tu l'acceptes. Alors, lorsqu'on parle de la parole, le Logos de Dieu, on parle donc de la parole établie et immuable de Dieu. Cette parole qui ne change pas, quelle que soit la culture, quelle que soit l'époque, quel que soit le statut que quelqu'un peut avoir de son vivant, c'est une parole qui s'applique à tout être, homme, femme, jeune, vieillard, adulte, pauvre, riche, éduqué, peu instruit, socialement élevé ou oublié de tous, la parole, le Logos de Dieu s'applique à tous et est la base sur laquelle le jugement de Dieu par rapport à l'humanité est établi. Donc, une parole qui est établie et immuable. Ce qui est intéressant aussi, c'est que lorsqu'on parle du Logos, on parle de la parole permanente et révélée de Dieu. Ça serait trop triste que le Seigneur soit effectivement juge de l'humanité et qu'il dise « voilà, à un moment donné, mon jugement va tomber sur vous », mais qu'il ne dise pas aux hommes sur quoi est basé son jugement et qu'est-ce qu'il accepte et qu'est-ce qu'il refuse. Notre Dieu, à travers sa parole, nous dit comment entrer en communion avec lui, comment rétablir notre relation avec lui, relation qui a été sapée en raison du péché initial d'Adam et Ève et qui s'est continuée jusqu'à nous aujourd'hui. La Bible nous dit que nous sommes tous privés de la gloire de Dieu à cause de notre péché. Donc la parole de Dieu vient non seulement établir ce que Dieu proscrit, ce que Dieu déclare comme péché, ce que Dieu déclare comme condamnable, mais de surcroît à ça, elle établit aussi pour nous tous ce que Dieu veut faire quant au salut de l'humanité. Donc Dieu a partagé cette connaissance du péché et cette connaissance du Sauveur. Parfois, il arrive que des gens aient des choses précieuses et qu'ils les cachent. Dieu n'a jamais caché sa parole. Il ne l'a jamais caché puisque de l'Ancien Testament jusqu'au livre de l'Apocalypse, qui est le dernier livre du Nouveau Testament, il révèle par une multitude de façons le Sauveur qu'allait être Christ, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc une parole qui a été établie, qui est immuable et qui est donnée en partage à l'homme. Dieu se révèle à travers sa parole pour que tout homme qui, étant confronté à cette parole, croirait en Christ comme Sauveur et Seigneur de l'humanité et par conséquent n'en serait point condamné. Donc la parole, le Logos, parole permanente et révélée de Dieu, une parole établie, une parole immuable et de surcroît à cela, une parole qui a été donnée en partage à l'humanité. La parole de Dieu. Pour nous, c'est pratiquement une évidence, Dieu. Mais qu'est-ce que veut dire Dieu? C'est le terme grec théos, T-H-E-O-S, T-H-E-O-S. Et assurément, ça parle de cette divinité, Dieu qui se fait chair à une certaine période de l'histoire de l'humanité, à travers Jésus pour être le Messie et le Sauveur de l'humanité. Mais ça va bien plus que strictement Jésus. Ça va d'une éternité à l'autre. Ça va d'une extrémité à l'autre de l'humanité par rapport au calendrier, bien sûr, humain. On sait que l'éternité, c'est sans fin à gauche et sans fin à droite. Mais il y a l'éternité qui était avant que nous n'existions et qui se poursuit jusqu'après nous. Voilà pourquoi régulièrement, on va dire, pour le restant de l'humanité, parce que nous, on a été un point particulier dans cette éternité et qui se développe, qui se poursuit pour le restant après nous. Donc, Théos, Dieu, mais le seul, l'unique, l'incomparable. Alors, lorsqu'on parle de Théos, on parle donc de ce Dieu créateur de toutes choses, de ce Dieu qui maintient toute la création en place. Savez-vous que l'axe même de la Terre, s'il bougeait de quelques microns d'un degré, nous brûlerions tous ou on gèlerait tous? Et ce contrôle sur la création est établi et gardé par Dieu. Donc le créateur de toutes choses, la Bible nous dit même que c'est à travers cette parole que toutes choses ont été créées. Que la parole était avant toutes choses, que toutes choses ont été créées par elle. De surcroît à cela, lorsqu'on parle de Théos, et là c'est un aspect qui est intéressant et qu'on oublie régulièrement. Théos veut aussi parler, et c'était un terme qu'on utilisait à l'époque du Nouveau Testament et à l'époque du grec antique, pour parler d'un magistrat ou d'un juge. Alors Dieu est-il non seulement le créateur de toutes choses, mais il est aussi le juge de toutes choses. Et lorsqu'on revient à la parole de Dieu, cette parole est créatrice de toutes choses, et cette parole est juge de toute chose. Le jugement de l'humanité est établi par ce que la parole prescrit, par ce que la parole affirme. Dieu ne va pas nous juger sur quelque chose sur lequel il n'a pas été clair, sur quelque chose qu'il n'a pas établi. Et tout ce qu'il a établi, il l'a mentionné effectivement dans sa parole. Alors lorsqu'on parle de la parole de Dieu, on parle donc de la parole du Créateur de toutes choses et la parole du Juge de toutes choses. Et je sais, c'est un aspect que plusieurs d'entre nous n'aiment pas entendre. On aime parler de Dieu comme ce bon papa qui aime, qui prend soin, qui restaure, qui régénère. Mais Dieu est aussi un juge et un juste juge. Et s'il faisait simplement que passer outre l'offense le péché, l'iniquité qu'on commet, ben à ce moment-là, il serait injuste. Parce que il a condamné à une époque une certaine chose et par la suite, il l'a permise. Ou parce qu'il l'aurait condamné pour certains et pour d'autres, il l'aurait autorisé. Donc notre Dieu, dans la justesse et dans la justice qui l'habite, n'a d'autre choix, n'a d'autre moyen que de juger l'humanité. Et il va te juger et il va me juger. Et on se rappelle, même le croyant, sauvé, racheté, vivant pour l'éternité avec Dieu, va quand même passer sous un jugement. Il y a le jugement qui s'adresse aux pécheurs, donc ce jugement dans lequel la condamnation éternelle du pécheur non repenti va se manifester. Mais de surcroît à cela, et on l'a étudié depuis 2 ou 3 semaines avec les différentes interventions qu'il y a eu dernièrement par le pasteur André, le pasteur Sergio et moi-même, on parle du tribunal de Christ où Dieu juge aussi les enfants de Dieu croyants pour les actions, pour le travail, pour le service qu'on a rendu. Et ce jugement va être aussi établi à travers la parole de Dieu. Donc, parole de Dieu qui est vivante. Le terme vivant, c'est le terme Zao, Z-A-O, Zao, qui va parler du souffle, qui va parler de la respiration et qui va parler de l'état vigoureux d'une chose. Donc, lorsqu'on parle de quelque chose qui est vivant, on parle de quelque chose qui respire encore. Il y a cette image du corps dont la cage thoracique se déploie et se replie au rythme des respirations et du souffle qui habite un corps. Et lorsqu'on parle de la parole de Dieu et qu'on dit qu'elle est vivante, par conséquent, on dit qu'elle n'est pas morte. Vous allez me dire que c'est redondant et puis que c'est une évidence de la palisse. Effectivement, mais parfois il est bon d'aller dans ces évidences même, dans les choses qui devraient être comprises comme toutes simples, mais ça nous permet parfois d'y réfléchir un peu mieux et de se l'approprier de façon un peu plus personnelle. Alors lorsqu'on dit qu'une chose n'est pas morte, ça veut dire qu'elle n'est pas dépassée. Quelque chose qui est mort, et une chose qui est morte, c'est une chose qui est inerte. Alors, à prime abord, elle n'évolue plus. Elle ne progresse plus. Elle ne se développe plus. Elle n'est plus efficace. Une chose qui est morte, c'est une chose qui s'est arrêtée à un moment particulier de l'histoire et qui ne va plus vers l'avant. La parole de Dieu n'est nullement, aucunement dépassée. Je répète, la parole de Dieu n'est pas morte, donc elle n'est nullement, aucunement dépassée. Le monde voudrait nous décrire la Bible comme un vieux bouquin. Le monde voudrait nous décrire la Bible comme quelque chose avec des morales, avec des histoires, avec des pensées qui ne sont plus d'actualité. Puisque le jugement de Dieu va s'établir de par cette parole. Alors cette parole est toujours pleinement et totalement d'actualité pour toi, pour moi et pour tout être humain. Puisque nous passerons tous sous le jugement de Dieu, alors aussi bien savoir sur quoi ce jugement est établi. Puisque les jugements de Dieu n'ont pas évolué, n'ont pas changé, restent et demeurent toujours les mêmes pour l'ensemble de l'éternité, alors la parole de Dieu n'est toujours pas et ne sera jamais dépassée. Assurément, quelqu'un qui veut la déclarer dépassée va la déclarer dépassée. Quelqu'un qui veut mépriser la portée de la parole de Dieu va être en mesure de le faire. Mais ça ne change pas que ça soit qu'il l'ait décliné ou qu'il l'ait repoussé, qu'il l'ait rejeté. Ça ne change pas qu'il sera malgré tout jugé sur la base de cette parole. Cette parole, c'est un peu comme le code civil ou comme l'ensemble des lois d'un pays. lorsqu'on passe devant un juge, pour qu'on soit accusé, il faut qu'il arrive avec des articles de loi qui disent la loi proclame que vous ne pouvez pas faire ceci, cela, ceci, cela. Et il va prouver par nos actions que nous avons enfreint des règles, des commandements, des lois qui étaient prescrites par l'État et par l'ensemble du Code civil. La parole de Dieu, c'est le Code civil du royaume de Dieu. Le Code civil par lequel les hommes doivent se comporter, par lequel les hommes doivent ajuster leur comportement, et le Code civil par lequel les hommes seront jugés. Et ce code civil n'est pas dépassé. Que tu reconnaisses la seigneurie ou pas de Dieu, tu seras malgré tout jugé par cette parole. Que le païen et l'impie reconnaissent ou non la véracité et la portée du code civil de Dieu, du logos de Dieu, il sera malgré tout jugé par ce logos. Alors rappelons-le, cette parole est vivante, donc nullement dépassée. Mais un des aspects intéressants aussi de vivant, de Zao, c'est que c'est non seulement quelque chose qui, dans sa nature, est toujours vivant, mais quelque chose qui apporte aussi la vie. Les seules choses qui peuvent donner la vie, ce sont les choses qui sont vivantes. Une chose morte ne peut pas susciter la vie. Une chose vivante peut entraîner un autre être vivant. Mais une chose morte ne peut pas susciter la vie. La parole de Dieu est vivante et de cet aspect vivant de la parole de Dieu, elle est aussi vivifiante. Ça veut donc dire que la vie éternelle à laquelle nous aspirons tous, que l'accès à la vie éternelle de Dieu, cet accès-là nous est donné, nous est prodigué, nous est enseigné, nous est ouvert à travers la parole de Dieu. C'est la parole qui nous montre comment être racheté, comment être pardonné de nos iniquités et comment avoir accès à Dieu, à la présence de Dieu pour l'éternité. Alors la parole de Dieu est non seulement nullement dépassée, mais elle est encore aujourd'hui la source de vie éternelle pour tout pécheur repentant. Dernier mot aujourd'hui, le terme efficace. Et là, c'est le terme energes. Energes, E-N-E-R-G-E-S. Energes, E-N-E-R-G-E-S. Faisons le même parallèle. Tout à l'heure, on a parlé de Zao, vivant, donc on a défini le non-vivant. Ben, si la parole est efficace, ça veut dire qu'elle n'est pas inefficace. Ça veut donc dire qu'elle est utile. Cette parole reste et demeure utile. Pour nous, en tant que croyants, ça devrait être une évidence. Mais si c'est une évidence, comment se fait-il qu'on ne se réfugie pas dans cette parole constamment? Si cette parole est utile, comment ça se fait, ou comment se fait-il, que nous ne l'utilisions pas constamment? Si cette parole est efficace, comment se fait-il que je n'ai pas usage de cette parole en toute situation, en toute circonstance, en toute décision que je dois prendre, en toute orientation que je dois donner à ma vie? L'enfant de Dieu devrait constamment se réfugier dans cette parole vivante et efficace, dans les décisions que tu dois prendre, dans le style de vie que tu dois adopter, dans les résolutions que tu dois prendre, dans les orientations pour ta vie, dans les choix que tu dois faire. Tu devrais toujours revenir à que dit la parole de Dieu par rapport à une telle situation. Et ce qui est intéressant sur le fait que la parole de Dieu est immuable, ça veut donc dire qu'on ne parle plus d'une parole qui est biaisée par la culture d'ici-bas. On ne parle plus d'une parole qui est biaisée par l'idéologie humaine, culturelle, d'ici-bas sur terre. On parle d'une parole qui dépasse la culture, qui dépasse l'historique, qui dépasse la philosophie de l'homme. C'est une parole qui établit une fois pour toutes ce que Dieu veut, ce que Dieu aime, ce que Dieu bénit et ce que Dieu demande de ses enfants. Et elle est donc par conséquent tout à fait utile. On veut mener une vie qui soit agréable à Dieu. On veut mener une vie que Dieu peut bénir. On veut mener une vie que Dieu approuve. Le seul moyen de savoir ce que Dieu bénit, ce que Dieu approuve, ce que Dieu réclame, c'est en connaissant sa parole. Alors sa parole, pour toi, pour moi, est encore utile aujourd'hui. Et nous n'avons aucune justification pour expliquer que nous n'allons pas faire recours ou avoir recours à la parole de Dieu de façon constante et quotidienne. Efficace, ça veut donc dire qu'elle produit un résultat. Tu ne peux pas être efficace s'il n'y a pas quelque chose de tangible qui découle de ton efficacité. Lorsqu'on dit qu'une chose est efficace, c'est qu'il y a un résultat. Et la parole de Dieu amène des résultats. Elle est principalement, si on réduisait la parole de Dieu à deux efficacités, elle va soit justifier, soit condamner. Elle va rendre sage à salut ou elle va condamner pour l'éternité. Ce matin, je prêche. Ce matin, j'enseigne. Cette parole va soit susciter chez toi une décision de changer ta vie, une décision de réformer ton existence, ou les paroles que je te dis aujourd'hui vont servir à te condamner ultérieurement. Comment? Mais tout simplement parce que tu ne pourras plus jamais dire à Dieu que tu n'étais pas au courant, que tu ne savais pas. Que tu ne savais pas que sa parole était le baromètre à travers lequel il allait juger tes comportements, tes désirs, tes inclinaisons, tes sentiments. Tu ne pourras jamais dire, lorsque tu feras face à Dieu, que tu ne l'avais jamais entendu. Aujourd'hui, on t'explique clairement que le jugement de Dieu vient parce qu'il est le juste juge, il est effectivement le Théos. Et que ce Théos va établir son jugement à travers le Logos, la parole établie, immuable et révélée de Dieu. C'est un peu comme la personne qui se présente devant un juge en disant « mais j'étais pas au courant ». Il y a cet adage ou cet axiome au niveau légal qui dit « nul ne doit ignorer la loi ». Mais c'est un peu la même chose avec la parole de Dieu. Nul ne peut ignorer la parole de Dieu. Tu ne pourras pas dire à partir de ce matin que tu ne savais pas que le baromètre par lequel tu serais jugé, condamné ou récompensé, c'était à travers la parole de Dieu. Ce matin, je te le dis clairement, pour que tu aies ce désir, cette soif, cette faim d'étudier encore davantage la parole de Dieu qui est vivante et qui est efficace. Alors, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? 8 points très rapidement. 1. Le Logos, une parole établie et immuable de Dieu. Une parole aussi donnée en deuxième point, en partage à l'humanité. La parole de Dieu comme troisième point, la parole de celui qui est le créateur de toutes choses. Et en quatrième point, la parole de celui qui est le juge de toutes choses. En cinquième point, on a vu que cette parole est vivante, Zao, donc elle n'est pas morte et par conséquent, nullement dépassée. Et que cette parole, en sixième point, est la seule par laquelle nous puissions obtenir la vie. Elle est vivante, cette parole, et vivifiante. En septième point, on a vu que la parole était énergès, efficace, donc pleinement utile pour toi et pour moi. Et enfin, elle est efficace, donc elle produit un résultat. Un résultat qui va être de proclamer ton salut ou un résultat qui sera de proclamer ta condamnation pour l'éternité parce qu'ayant rejeté cette sublime et ineffable parole de Dieu. Alors prions. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ces mots qui ont été prononcés ce matin. Tu vois le cœur de chacun. Tu vois l'état et l'environnement, Seigneur, de chacun. Tu vois les décisions qui ont été prises à ton égard, en ta faveur ou contre toi. Je prie, Seigneur, que la parole qui a été prononcée aujourd'hui soit ointe par ton Esprit Saint, afin qu'elle aille dans des détails particuliers de la vie de toute personne qui l'entendra. Nous savons, Seigneur, que tu es le juste juge, que tu t'es révélé à travers ta parole et que tu te révèles encore à travers ta parole, instruisant génération après génération, individu après individu, individu sur ce que tu bénis et sur ce que tu proscris, afin que personne d'entre nous ne passe à côté de cette opportunité que tu nous donnes d'avoir accès à l'éternité en ta présence, à travers la rédemption de notre salut et à travers la seigneurie de Christ sur nos vies. Alors Seigneur, je bénis ma sœur, je bénis mon frère. Je bénis cette parole qui est proclamée dans leur vie. Et je prie, Seigneur, que comme moi, prenions les décisions qui s'imposent, afin d'accorder à ta parole toute la place qui est nécessaire et toute la place qui lui revient. Elle est effectivement la révélation même de Dieu. Je veux te plaire, je veux t'être agréable, je veux te suivre avec tout le meilleur qui m'habite et par conséquent, je dois le faire en connaissance de ta parole. Révèle-toi à nous encore. Alors bénis ma sœur, bénis mon frère et que cette journée, Seigneur, soit placée sous la bannière de ta parole. Nous t'avons prié dans le précieux, glorieux et merveilleux nom du Sauveur et du Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Alors, je rappelle deux, trois petites choses très rapides. Premièrement, demain matin, je ne serai pas là. J'ai un examen à l'hôpital, donc je ne serai pas là demain matin. De surcroît à ça, ce soir, il y a rendez-vous avec le pasteur André Bernard pour l'étude sur le livre aux Éphésiens, sur l'épître aux Éphésiens. Donc, c'est à partir de 19h. Ça a été diffusé hier en direct, mais le lundi soir, on le reprend en différé sur la page Facebook de l'Église. Et de surcroît à cela, les inscriptions pour l'Assemblée de dimanche en cours. Hier, on était très nombreux. On pensait à un certain moment qu'on allait peut-être même remplir toutes les chaises, alors qu'on avait une capacité pratiquement pleine hier. Donc, on vous invite à vous inscrire pour l'Assemblée de dimanche. Vous savez les moyens, vous avez les outils pour le faire, soit par courriel au secrétariat de l'Église ou en appelant au numéro du secrétariat, donc sur la boîte vocale. Alors sur ce, je vous souhaite une belle journée, que Dieu vous bénisse. Et puis on se retrouve, pour nous, on se retrouve mercredi matin pour notre prochaine bénédiction matinale. Au revoir tout le monde.